Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui c'est un très très grand plaisir pour moi de retrouver mon très cher ami Luc Baudin. Ça va Luc ?
Bonjour Nathalie, moi aussi ça me fait vraiment très très plaisir d'être là avec toi et avec tous nos auditeurs parce que j'ai toujours un grand moment de plaisir et de partage.
Et puis ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, depuis notre émission sur les jambes, alors il me semble que c'était l'été dernier. Donc on a pu passer l'été en toute confiance voilà. Avec des belles jambes, pouvoir mettre nos jupes, nos escarpins grâce à tes conseils.
Bah, écoute, je te remercie parce que c'était le but justement, d'être bien dans ses jambes et puis de montrer ses belles jambes parce que je trouve qu'elles sont magnifiques ces jambes.
Alors Luc, aujourd'hui on va parler de la méthode Aura. Donc ça c'est un de tes derniers ouvrages, Éveiller votre pouvoir guérisseur, donc aux éditions Guy Trédaniel. Alors explique-nous en quelques lignes d'où elle vient cette méthode Aura.
Voilà, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, qui a été un peu l'instigatrice au tout départ. C'est que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur Ho'oponopono. Je suis toujours un admirateur et je pratique Ho'oponopono quotidiennement. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans la notion de l'amour. Ho'oponopono, c'est l'amour. Et un jour, dans les stages que je pratique, que je donne, j'interroge souvent l'enfant intérieur du groupe. Et l'enfant intérieur du groupe, c'est comme s'il m'attendait, il me dit: Mais l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie. Alors là, je veux dire que l'amour avec un grand A, on est bien d'accord. Et là, j'étais très interloqué, très surpris par ce qu'il vient de me dire, parce que pour moi, l'amour, c'était quelque chose de magnifique. L'amour de l'autre, l'amour de soi également. Donc tout ça, c'est quelque chose. J'étais vraiment sonné quelque part pendant quelques secondes. Et puis, je suis revenu le voir en disant: mais écoute, l'amour, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que l'amour? Et il me répond du tac au tac: la vacuité. Là, j'étais pas du tout dans cette énergie-là à cette époque-là. Et en fait, je m'aperçois maintenant que la vacuité, c'est vrai que d'être là, en acceptant les choses telles qu'elles sont, sans attendre, sans demande, sans rien juger, quelque chose est un état absolument merveilleux. Et en fait, Aura est quelque part partie de là. En sens que nous sommes toujours on a toujours de la souffrance physique, souffrance morale, on a toujours des angoisses, des stress, des pleurs, des chagrins, des douleurs à droite, le club des tamalous, comme je dis souvent en plaisantant, on fait tous partie un jour ou l'autre du club des tamalous, et donc ces souffrances, on n'y prend pas garde, ou au contraire, on a plutôt tendance à les mettre de côté, en disant non, ça va passer, puis t'écoutes pas, et puis il faut que tu continues, et puis t'as ton travail, et puis t'as ceci, t'as cela, donc on les met de côté. Or, en fin de compte, tout ça, ce sont des signaux que nous envoie notre corps et qu'on ne prend même pas le temps d'écouter, d'entendre, alors que c'est notre corps, c'est lui qui nous porte tous les jours, c'est lui qui nous permet de vivre tout le temps. Et tout simplement, là, je me suis aperçu, à travers la méditation, à travers le Bowen, quand on peut parler, on pourra parler tout à l'heure si tu veux, et bien à ce moment-là, c'est à travers ces choses-là, si on prend simplement le temps de s'arrêter et d'écouter, de regarder sa douleur, de regarder où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle chauffe, est-ce qu'elle brûle, etc. De sentir son angoisse, l'angoisse qu'on peut avoir en soi, est-ce que ça serre dans la gorge, dans la poitrine, est-ce qu'on a des larmes qui montent aux yeux. Donc de voir un petit peu comment elle se porte sur notre corps, et on la regarde, on dit: ok, je te regarde, je t'entends, je t'écoute, c'est tout. Sans la juger, sans demander non plus à ce qu'elle s'en aille, voilà, ok, tu as un message à me délivrer, je t'écoute. Et donc il délivre le message, et une fois que le message est délivré, qu'on a vu ce qui se passait, qu'on a vu, ressenti cette angoisse, on s'est aperçu, ouais, eh bien le messager s'efface, c'est-à-dire que le symptôme s'efface. Et ça nécessite entre 30 secondes à 2-3 minutes. Pour la plupart des choses. Donc j'ai beaucoup travaillé au tout départ avec des choses qui étaient très simples, du style les douleurs, les spasmes, les contractures, les nausées, les petits problèmes de vésicule biliaire, d'intestin, etc. Et en fait, d'un autre côté, c'était tout ce qui était angoisse, tout ce qui était stress, tout ce qui était un petit peu déprime, etc. Et puis, après, en fin de compte, j'ai eu plein de personnes qui ont lu le livre et qui ont écouté aussi mes conférences, et qui ont été bien au-delà. Et donc, ils ont rêvé, m'ont envoyé des témoignages de réussite en me disant: grâce à Aura, j'ai pu diminuer mon hypertension, grâce à Aura, j'ai pu diminuer mon diabète, grâce à Aura, j'ai pu. Même une jeune femme, elle me racontait qu'elle avait même arrêté sa poussée de polyarthrite rhumatoïde grâce à Aura. Donc, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et donc, ça ne remplace pas les médicaments, ça ne remplace pas les. Mais ça permet souvent de diminuer les posologies, diminuer les traitements, ça permet aussi d'éviter certains il y avait une dame qui avait une rage de dents parce qu'elle avait une dent qui était carrément fendue, et en fendue en deux, elle avait arrêté sa douleur avec Aura, simplement avec Aura, sans prendre de médicaments, et donc ce qui n'a pas empêché d'aller voir le dentiste pour soigner sa dent.
Bien sûr. Voilà.
Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est très simple. C'est très très simple.
Donc l'idée c'est quand même que ça demande, là tu dis entre 30 secondes et 2 minutes, je sais plus ce que tu as dit exactement, mais surtout ça demande une grande présence à soi, fait une grande attention vis-à-vis de soi-même. Je crois que c'est ça peut-être tout le défi de cette méthode-là.
C'est la concentration. Bah, au tout départ...
Sans mental.
Sans mental, oui, mais justement, quand on est dans la présence, le mental s'éteint. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on est dans la présence, eh bien là on est dans le présent. Évidemment, c'est presque un pléonasme. Et donc, comme on est dans le présent, là, il n'y a plus de mental. Le mental, lui, il ne parle que quand on est dans le passé. Alors, dans le passé, en général, on est dans la déprime, parce que justement, on est dans le passé. Il est dans le futur. Quand on est dans le futur, là encore, là, il est le roi. Donc, c'est vraiment lui. Et là, on est souvent dans l'anxiété. Quand on pense au futur, on a toujours peur qu'il arrive ceci ou cela. Mais quand on est dans le présent, c'est là, d'un seul coup, il se calme. Et ce qui est merveilleux dans le présent, et ça, je vous le dis à tous mes éditeurs, pensez bien, quand vous êtes dans le présent, c'est le seul moment de votre vie où vous vivez, justement. Quand vous êtes dans le passé, quand vous êtes dans le futur, vous ne vivez pas. Voilà, donc tout ça, c'est le seul moment où on vit. Tout comme quand on regarde un film, etc., on ne vit pas. On vit par procuration, on regarde quelque chose, mais on ne vit pas. Donc le seul moment où on vit, c'est quand on est présent, ici. Et quand on est présent, c'est le moment où le mental s'éteint. Et quand le mental s'éteint, là, on peut vraiment avoir l'information, on peut déjà l'entendre.
Alors, tu parles d'une information qui est délivrée. Elle est délivrée sous quelle forme ?
Ben, c'est le symptôme. C'est-à-dire pour moi, tous les symptômes comme les maladies sont des messagers. C'est-à-dire, des symptômes qui sont là en train de nous dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. » Donc, quelque chose qui ne va pas dans ta vie au niveau de mon mode de vie ou mon mode de pensée. Moi, j'ai un médecin que j'adore. Ce monsieur, il devait être extraordinaire à son époque. C'est le docteur Bach. Il disait si on tombe malade, c'est qu'on n'est pas, on n'est plus sur son chemin de vie. C'est qu'on n'est pas en train de répondre à ses aspirations. Et ça, ce monsieur-là, à l'époque, il avait très très bien compris. Et bien là, c'est pareil. Quand on n'est pas sur notre chemin de vie, eh bien tout simplement, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Et puis là, d'un seul coup, au fur et à mesure, il y a le corps qui va commencer à parler et qui commence à grincer. Et c'est toujours très symbolique l'endroit où il va se porter. Donc tout ça, ce sont des messages. Donc c'est un peu comme quand le facteur vous arrive avec une facture à payer, vous lui tirez pas dessus parce que vous prenez la note, vous la regardez, vous payez votre note, et puis bon, après ça, vous pouvez jeter la facture. Et bien là, c'est un peu pareil. Ok, j'ai entendu, j'ai une douleur à ma dent, ok, je l'ai entendu, je vais téléphoner chez le dentiste, d'accord. Maintenant, la douleur, elle peut partir en attendant que j'aille voir le dentiste. Voilà.
Oui, et puis surtout, la grande nuance, c'est que quand on a mal quelque part, on essaie de lutter contre. Voilà. C'est un réflexe humain qu'on a tous, c'est-à-dire que la douleur comme ça, qui survient de manière aiguë, on est là, puis on se crispe, on n'est pas bien. Au contraire, ce que préconise cette méthode Aura, c'est de lui porter une attention toute particulière, de l'amour.
Exactement, c'est de l'amour qu'on peut lui apporter également, ouais. Tout à fait. C'est pour ça que ça rejoint quelque part aussi au Ho'oponopono, parce que d'un seul coup, ok, t'es là, mais t'es bienveillante. Et rappelez-vous, c'est la notion, la maladie est une réaction saine face à une situation déséquilibrée. Donc c'est pour ça, c'est que l'idée, c'est de bien sûr de dire ok, t'as fait ça, t'as trouvé, c'est pour toi, c'était la meilleure solution. C'était peut-être pas la plus bonne, mais c'était la meilleure pour toi que t'as jugé. Mais par contre, ça correspondait à une situation déséquilibrée que j'avais dans ma vie. Et donc là, à ce moment-là, il faut que je prenne des décisions pour changer cette situation déséquilibrée. Et à ce moment-là, le symptôme n'aura plus besoin d'être et il pourra disparaître. C'est toute une vision de la maladie qui est différente de tout ce qu'on nous, parce que là on n'est plus en train de c'est un peu comme le germe, les maladies, vous savez, simplement une infection. L'infection est un virus, ça vient de surtout d'une bactérie. Mais d'un autre côté, il peut y avoir une épidémie. Je dis souvent en plaisantant, il y avait les sérieuses épidémies du Moyen Âge qui ont tué la moitié de la population, les épidémies de peste. D'accord, c'était terrible. Mais pourquoi elles n'ont pas tué l'autre moitié?
Oui, mais c'est toujours, je sais plus qui disent tout le temps ça, l'histoire du moustique et du marécage qui était là en premier. Mmh, oui, bon, bah, finalement, oui, mais c'est ça aussi. Ouais.
C'est aussi surtout la notion, et surtout la notion que les gens qui ont survécu étaient des gens qui avaient un terrain qui était plus favorable. C'était des gens qui étaient mieux nantis, qui avaient de quoi manger, qui avaient. Mmh. Et comme disait Luc Montagné, qui était le découvreur du sida, eh bien, il dit, si vous voulez, il avait donné ça à une interview à un Anglais que j'avais vu sur YouTube, et j'ai trouvé ça génial, qu'il ose le dire. Et il disait, si vous voulez arrêter le sida en Afrique, c'est pas en faisant des campagnes de pour le préservatif, etc. Ça n'a jamais rien donné, on le voit bien. Simplement, il suffirait qu'on donne là véritablement des conditions d'hygiène et de vie à tous les Africains. Alimentation, logement, hygiène, salubrité, eau courante, etc. Et d'un seul coup, le sida, il fondrait comme neige au soleil. Il serait comme en France. Il y en a toujours du sida, mais c'est vraiment resté à l'état endémique. Alors qu'on nous promettait à l'époque, si vous vous rappelez, au niveau du sida, on nous promettait quelque chose de monstrueux, une épidémie monstrueuse qui n'a pas eu lieu parce que tout simplement le reste de la population en France était en équilibre au niveau santé. En Afrique, on sait bien que les conditions dans lesquelles ils vivent sont des conditions qui sont déplorables pour la plupart et donc qui donnent le lit à le développement de la maladie. Donc là encore, simplement, si c'était une réaction saine quelque part à une situation déséquilibrée. Et donc la situation déséquilibrée, on la connaît, mais malheureusement, les Africains ne peuvent pas la résoudre par eux-mêmes et on aurait les moyens de le faire, nous aussi. Mmh.
Alors oui, j'aimerais revenir juste sur la délivrance de ce message que finalement le corps nous donne à travers le symptôme. Mmh. Est-ce que parfois, donc on sait que tout ça c'est très inconscient, évidemment, avant tout d'ailleurs énergétique, avant d'être inconscient, mais est-ce que pour certaines personnes, de créer cette présence à soi, de se focaliser entre guillemets sur cette douleur, sur ce symptôme pour l'accueillir, est-ce que la délivrance du message arrive immédiatement? Est-ce que pour certaines personnes c'est plus compliqué de comprendre pourquoi est-ce que c'est survenu?
Oui, je dirais que la compréhension arrivera au fur et à mesure. C'est qu'il faut pas déjà commençons par éteindre le symptôme, déjà commençons par travailler sur le sur la, par exemple, la personne qui a mal à la dent, on va commencer par calmer le symptôme. Ok, j'ai mal à la dent, maintenant je l'ai entendu, ok, j'éteins le symptôme, je vais prendre le dentiste. Après ça, on peut travailler au troisième niveau, qui est un troisième niveau qui me paraît toujours intéressant, mais on a encore du mal à faire passer cette information-là, c'est qu'il y a toujours un symbole. Il y a toujours un symbole, une dent, pourquoi telle dent plutôt que telle autre, pourquoi à ce moment-là et pourquoi à tel moment. Je donne souvent un exemple que j'avais vu il y a quelques années dans mon cabinet, quand j'exerçais encore, il y avait un monsieur qui était venu me voir, il était chauffeur de camion. Chauffeur de camion, le problème, là, il arrive avec une bonne sciatique. Bonne sciatique, c'est une maladie professionnelle chez un chauffeur routier. Bon, j'aurais pu me dire, j'avais fait un petit peu d'ostéo à cette époque-là, bon, il était ressorti, il allait mieux, puis j'aurais pu m'en contenter de ça. Mais seulement, je lui ai dit à la fin, vous devez avoir des problèmes, vous, à ce moment dans votre vie. Et je me rappelle ce monsieur...
Avec maman.
il me regarde, et puis il me dit, mais vous êtes devin, vous. Je lui dis, non, c'est que la colonne vertébrale, c'est toujours le symbole du gouvernail de la vie. Donc, du gouvernail de la vie. Et quand le gouvernail ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et donc, il me dit, moi, je suis à mon compte, donc je prends beaucoup de contrats à des prix faibles pour avoir les contrats. Mais c'est des prix faibles, il faut que je fasse beaucoup de contrats. Comme je fais beaucoup de contrats, je suis jamais à la maison. Et comme je suis jamais à la maison, ma femme, elle me dit maintenant, c'est le camion ou c'est moi. Donc là, il était, c'est le camion ou c'est moi. C'est le camion ou c'est moi. C'est le camion ou ma femme. C'est le camion ou ma femme. Donc tant qu'il n'avait pas solutionné aussi ce problème-là, eh bien son problème de sciatique et de lumbago, il reviendra régulièrement. Donc c'est, après ça, bien sûr, on peut dire c'est un tassement, c'est lié au fait du camion, etc. On est d'accord.
Oui, d'un point de vue fonctionnel.
Tout à fait. Mais il y a la symbolique qui est derrière et qui explique aussi pourquoi il le faisait à ce moment-là et pourquoi pas à tel autre moment. Après ça, donc c'est aux personnes d'accepter d'aller un petit peu plus loin.
Puis après, il y a peut-être des décisions. Là, ce que tu soulèves, c'est qu'il y a des décisions à prendre derrière, évidemment bien plus personnelles.
Et c'est que lui qui peut la faire. C'est que lui qui peut prendre la décision. Nous, en tant que thérapeute, on peut lui montrer le problème. Après ça, à lui de le solutionner.
Justement, peut-être que les auditeurs sont en ce moment face à des choix et des décisions à prendre qui sont pas forcément faciles pour eux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil finalement quand on a l'intuition qu'il faut qu'on aille vers un changement, mais pour soi-même, mais on sait que ça va être un passage difficile?
Moi, il y a un élément qui est très très simple, très très simple, et je vais vous donner la solution qui vous allez voir, elle est très sympathique, cette solution-là. La solution, la meilleure solution pour vous, eh bien, c'est la solution dans laquelle vous serez heureux, tout simplement. Prenez toujours la solution où vous êtes heureux, qui va vous mener vers le bonheur, vers la joie, vers la satisfaction, c'est tout. Même si vous êtes obligé de passer par une période, il y a des fois on passe par des périodes très très difficiles, on est bien d'accord, mais au final, regardez la situation là où vous êtes heureux. Et là, quand on est heureux, c'est qu'on est vraiment sur sa route, c'est tout. Donc quand on est malheureux, c'est qu'on n'est pas dans ses aspirations. Et c'est, on est dans le compromis, on est en train d'essayer de faire plaisir aux autres, on est en train de s'arranger. Mais dans le compromis, on n'est plus nous. Et un petit peu le mental, il est utile aussi, le mental, parce qu'il nous permet d'être dans le paraître. Dans notre société, on a besoin d'être dans le paraître. Mais seulement parce que notre société n'est pas adaptée à nos aspirations. Donc... on a créé ce petit peu cet écran qui nous permet de le paraître, mais seulement on a fait l'ego, mais seulement on a tellement développé que maintenant il est hypertrophié, hyper développé, et si bien qu'on a pu accès à ce qu'est notre intérieur avec nos aspirations profondes, avec nos talents, avec les raisons pour lesquelles on est là. Et donc de temps en temps, comme il a plus l'occasion de s'exprimer comme il le devrait, à ce moment-là il vient nous faire des petits rappels à l'ordre sous forme de mal-être, sous forme de symptômes, sous forme de maladie, etc., pour nous dire attention, t'es pas sur sa route. Et alors le paraître est important, mais il faut pas, vous savez, c'est que on voit souvent sur les personnes dans le paraître qui sont on est son métier, par exemple. Ouais, je suis médecin. Si je considère que moi je suis médecin, ça veut dire que quand j'arrive à la retraite, je suis plus rien.
Ben oui.
Voilà. Donc combien qu'il y a de personnes qui arrivent comme ça à la retraite, quel que soit leur métier, ils font une déprime parce que d'un seul coup ils s'identifient qu'à leur métier. Mm-hmm. Alors qu'en fin de compte, on est bien autre chose que ce que son métier. On vaut bien plus
cher. Aucun mari, aucune mère, aucun père de famille.
Voilà. Exactement.
Tout ce problème de notion d'identité.
Cette notion d'identité. Et donc là, on oublie ce qu'on est à l'intérieur. Et justement, les symptômes sont là pour nous remettre un petit peu, d'une part, notre mode de vie. Peut-être qu'on a fait trop ceci, on n'a pas fait cela, etc., dans notre mode de vie. D'accord, ça c'est vrai. Mais aussi, de l'autre côté, j'ai toujours vu qu'il y avait les deux côtés qui marchaient ensemble. L'autre côté, c'est qu'il y a toujours un symbole. Pourquoi ça vient sur l'épaule? Pourquoi ça vient pas sur le coude? Pourquoi à tel moment, etc. Donc, les deux sont valables. Il y en a pas, on va pas dire il y en a un plus que l'autre, les deux sont valables. Après ça, on entend surtout le côté physique, mais il sera très très intéressant d'écouter le côté psychologique. Et pour répondre encore à ta question, Nathalie, faut toujours choisir la voie qui nous rend heureux.
Ouais. Heureux. C'est ça. Non, mais en fait, c'est un peu comme une partie de poker. Bah voilà, on va miser sur la solution qui nous rendra à long terme la plus heureuse. Et puis, de toute façon, on le sait au fond de soi. Hein. On sait toujours la situation qui va nous rendre la plus heureuse. Même si prendre cette décision nous mène, voilà, ouais, nous coûte, exactement.
Parce qu'il y a des croyances qui font qu'il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on rende service, etc. En fin de compte, tout ça, toutes ces croyances.
Ouais, c'est vrai, la loyauté, etc. Voilà, toute la loyauté. Mais par exemple, par rapport au travail, tu sais, le nombre de personnes qui osent pas quitter leur travail parce que, ils sont là depuis 30 ans, qu'on leur a peut-être rendu service au début en les acceptant, et que voilà, toutes ces notions-là, en fait, qui nous pourrissent.
Qui nous pourrissent, et simplement, et là encore, c'est un manque de discussion. Parce que simplement, de dire, OK, moi, ça fait 30 ans que je suis là, mais maintenant, j'aurais envie d'autre chose. Et souvent, les autres le comprennent aussi. Simplement, le dire. Parce que souvent, on le garde dans notre tête, et on pense.
Et on imagine.
On imagine, voilà. Mmh. Et l'imagination, en général, on se plante, mais complètement. Et simplement, l'autre le comprendra très bien. S'il nous aime vraiment, et il comprendra très bien qu'au bout de 30 ans, on a peut-être besoin de changer de métier, d'aller faire autre chose qui sera plus dans nos aspirations, qui ne renie pas le travail qu'on a fait pendant 30 ans, qui était magnifique. Mais au bout de 30 ans, c'est un petit peu comme quand j'exerçais la médecine. J'étais très heureux en faisant la médecine, en travaillant. Mais au bout d'un moment, j'avais eu besoin d'aller voir autre chose, de développer autre chose. Et voilà, il faut. Et là, quand on est sur son chemin, on a une mission. On a une mission dans la vie qui est à la fois d'apprendre des choses des autres et de faire des choses pour les autres. Et donc, quand on est dans cette mission, la cerise, le guide, c'est qu'on est heureux. Parce que si on avait une mission et qui nous rendait malheureux, personne ne la ferait, c'est une évidence. Donc, quelque part, la vie nous a dit, OK, je te donne une mission et tu verras. Dès que tu seras sur cette mission, là, tu t'éclateras. Tu seras vraiment bien, tu seras chouette, tu seras heureux. Donc, pour nous, c'est un petit peu le fil d'Ariane. Quand on est heureux, c'est qu'on est sur sa fin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça grince, ça veut dire que quelque part, on est en train de s'en éloigner. Donc, il faut faire un petit retour en arrière, de se dire qu'est-ce qui a fait.
Non, puis toute la vie, surtout tout le parcours, en fait. On a comme ça des moments où finalement les symptômes, les maladies, les difficultés émotionnelles, en fait, qu'on rencontre au quotidien sont des opportunités d'évolution.
Et moi, j'avais passé j'avais été parti au voyage aux Philippines, voir les guérisseurs philippins il y a une dizaine d'années. Et le groupe avec lequel j'étais était un groupe merveilleux de thérapeutes, de médecins. Et donc, on a tout travaillé sur l'intuition, le ressenti, etc. Donc ça, le groupe, c'était un voyage extraordinaire. Mais quand il commençait à y avoir des tensions dans le groupe, quand il commençait à y avoir des petits anicroches, des personnes qui commençaient à moins bien s'entendre, etc., on se réunissait et on se disait « Oh, oh, on a dû prendre une mauvaise décision à un moment ou à un autre ». Donc dans le groupe, on était une vingtaine, il y en avait toujours un qui dit « Oui, c'est à ce moment-là, on a peut-être pris cette décision-là ». Donc on se reprenait, et on changeait la décision, on reprenait une autre décision, et d'un seul coup, pouf, on repartait sur une situation qui était limpide. Quand ça glisse bien dans la vie, quand tout glisse bien, quand tout arrive comme il faut, etc., ça veut dire qu'on est bien sur sa route. Et dès qu'il y a des petits anicroches, ça veut dire qu'on a commencé à faire des compromis, on a commencé à prendre une petite voie de traversée. Ça aussi, c'est intéressant comme cheminement, je dirais, quelque part.
Oui, tout à fait. Non, c'est ce qu'on peut appeler des ajustements, finalement. Il y a beaucoup de moments où on a besoin de s'ajuster, et justement avec soi-même encore davantage. D'où l'importance, on le répète assez régulièrement, c'est pas forcément vous retrouver seul pour méditer ou pour faire du tai chi, du yoga, peu importe si c'est pas votre truc, mais juste, déjà, vous retrouver seul. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me témoignent autour de moi des moments de bonheur qu'ils ressentent quand ils sont seuls. Moi-même, c'est vrai, quand je me balade dans Paris quelques heures toute seule, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui circule, et se retrouver face à soi, ça rend heureux. Autant qu'après, on peut être disposé à être avec les autres. Et
c'est pour ça aussi que de se réveiller le matin quand on est heureux, un matin heureux, c'est extraordinaire, c'est génial.
Il ne faut pas que le réveil sonne trop tôt, mais...
mais on peut se réveiller avant le réveil et être heureux aussi. Mais c'est vrai que le bonheur, c'est ça la clé du succès. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on n'est pas là pour être malheureux, pour être triste, pour être enfermé. Bien sûr, il y a des épreuves dans la vie qui nous font grandir. Mais d'un autre côté, toujours quelque part va nous attendre quelque chose de plus merveilleux derrière.
C'est clair.
Et ça m'a toujours... j'ai toujours accroché à cette idée-là. Et j'ai toujours vu que c'était le cas. Et après, arrive vraiment un plus grand bonheur encore. Quelque chose de plus beau. Qu'on n'imaginait même pas au départ. Il y a des choses qui me sont arrivées. Je n'imaginais même pas que c'était possible de pouvoir les avoir. Ou que je pourrais, moi, les avoir. Parce qu'on se dit toujours moi non, les autres oui, mais pas moi. Donc c'est toujours. Et en fait, on dit un grand merci.
C'est clair. Et puis en fait, sur Radio Médecine, on reçoit quand même beaucoup de gens qui, avant de démarrer l'émission, vont dire aux auditeurs, moi, ma plus grande chance, ma plus grande opportunité dans la vie, c'est d'avoir eu ce cancer, d'avoir eu cette maladie. Et c'est toujours prendre le contre-pied des choses qu'on n'entend jamais, parce qu'au contraire, les gens vont dire, je suis passée par un cancer, ça m'a détruite. On entend quand même bien plus de discours comme cela. Et quand on a des gens comme Marion Caplan, qui est venue il n'y a pas très longtemps, ou Guy Corneau, qui vont dire, moi, ma maladie, ça a été l'opportunité de ma vie. Je ne serais jamais là où j'en suis si j'étais pas passée par là.
Mais je rassure quand même les auditeurs, c'est qu'on n'a pas besoin non plus
de passer par la maladie pour avoir ça.
Parce que justement, c'est tous ces petits symptômes, donc les petits symptômes pour Aura, donc pour revenir à ça, c'est que les petits symptômes de la vie quotidienne sont les prémices. Et en fin de compte, c'est le problème, c'est quand on ne les entend pas, quand on ne les écoute pas, les symptômes vont devenir de plus en plus forts jusqu'à arriver à la maladie.
Au stade de la maladie.
Donc la maladie, le cancer, c'est la finalité, c'est qu'on se retrouve avec une maladie où on a notre principe de vie, c'est la vie, la mort, et donc ça nous oblige de changer. Et donc là, mais avant d'en être obligé de changer, eh bien, si on écoute les petits symptômes, ça nous évite justement d'arriver à ça. Donc c'est pour ça l'intérêt. Mais autrement, je suis tout à fait d'accord avec Guy Corneau et Marion Caplan, c'est que la maladie est là pour nous changer.
Ouais. Alors il y a une superbe phrase d'introduction là dans ton livre. « Sortez de votre quotidien et explorez le monde. Pour commencer, visitez votre intérieur. Voyez comme il est merveilleux et puissant. Vous y trouverez toutes vos réponses. »
Exactement. Et il y a un corollaire, c'est toujours « Ne cherchez pas les réponses ailleurs, elles sont déjà à l'intérieur de vous. »
C'est clair.
Et c'est pour ça que tout ce qu'on a dit, tu vois, Nathalie, tout ce qu'on a dit depuis le début, eh bien, tous nos auditeurs en avaient déjà conscience. C'était déjà quelque part en eux, en nous.
Bien sûr.
Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on réveille un petit peu ces concepts qui sont à l'intérieur. Et il faut souvent écouter avec son cœur, parce que quand on écoute avec son cœur, on sait ceux qui sont dans le juste et ceux qui sont dans le faux. Et c'est avec le cœur qu'on ne se trompe pas.
Tout okay, à fait. Voilà. Puis on sait déjà si nous, on se place dans la justesse vis-à-vis de soi.
Exactement.
Et puis, pas en fonction du mental.
Ce qui n'est pas facile toujours, mais ce qui fait plaisir, c'est quand il s'arrête, celui-là.
C'est clair. Alors, en tout cas, chers auditeurs, découvrez donc le livre du docteur Luc Baudin, La méthode Aura, Éveillez votre pouvoir guérisseur. Tout un programme quand même assez exceptionnel. Donc, aux éditions Trédaniel. Alors, Luc, donc tu n'arrêtes pas, là, je lisais un commentaire d'une auditrice qui disait, mais Luc Baudin s'arrête-t-il parfois d'écrire des livres? Mais non, Luc Baudin, on écrit...
Il arrive à dormir la nuit aussi.
Voilà, tu arrives quand même à dormir,
oui,
ça va?
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que celui dont tu vas parler m'a pris des années à écrire.
Bon,
des
alors années. Ça, c'est la bible des termes médicaux. Donc moi, j'en ai parlé dans la newsletter de Profession Thérapeute. Donc c'est plutôt un livre qui s'adresse à qui, cette bible des termes médicaux?
Ce livre est pour tout le monde, justement, parce que j'ai voulu... dans tous les dictionnaires que j'ai trouvés des termes médicaux, j'ai trouvé toujours compliqué. Y compris pour moi, un médecin. Donc, je veux dire, je comprends quelqu'un qui n'était pas médecin, des choses qui n'étaient pas toutes simples. Donc, j'ai voulu reprendre un petit peu tous ces termes les plus courants au niveau des termes de la médecine conventionnelle, de la médecine naturelle, les abréviations les plus courantes, et surtout donner des explications qui soient compréhensibles par tout le monde. Et ça, c'est vraiment le... Alors, c'est vrai que c'est un sacré travail, c'est pour ça que ça m'a pris des années, je faisais ça un petit peu à mes temps de loisir, entre guillemets, pour reprendre des définitions et les re-reprendre pour que ce soit des définitions qui soient claires pour tout le monde et qui ne soient pas simplistes non plus, qui reflètent vraiment la réalité. Donc c'était un beau challenge et je suis très content de l'avoir terminé parce que c'est un gros travail de synthèse et voilà, j'espère que ça peut, c'est pour aider tout le monde, aussi bien les thérapeutes que les médecins, mais que tout le monde peut le lire, au contraire, c'est quelque chose à la portée de tous.
Non, c'est super intéressant. Bah là, je suis tombée sur kératose, donc je ne savais pas du tout ce que c'était, affection de la peau ou d'une muqueuse produisant un épaississement de la couche cornée. Ok.
Voilà, c'est...
Bon, bah voilà, donc, et puis tous les jours on peut l'ouvrir. Tiens, ça va m'être très utile ça.
Oui, et c'est vrai, par exemple, les oméga 3, les oméga 6, tout ça, on en parle et on entend la définition une fois, puis on l'oublie tout de suite après.
Tout à
donc,
fait.
Voilà, essayer de donner des choses qui soient simples et qui soient agréables. Et c'est vrai que là, le livre est en plus sympathique parce que c'est une belle couverture avec des couleurs bichrome, etc. Donc je suis très, très, très heureux. C'est un travail final, celui-là qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et donc
t'en es fier.
Voilà.
Bon, donc la Bible des termes médicaux aux éditions Josette Lyon. Alors, c'est un livre qui s'adresse donc au grand public, comme grand tu l'as public, souligné, au grand public qui s'intéresse à sa santé, mais particulièrement, et moi j'ai trouvé ça assez pertinent de le présenter aux thérapeutes, parce que c'est vrai que c'est un livre que les thérapeutes peuvent avoir dans leur cabinet et qui est quand même d'une utilité incroyable.
Que, c'est vrai qu'ils sont plus encore en contact avec les termes médicaux et des choses comme ça. Donc c'est vrai que même s'ils sont déjà dans la partie, les mots de médecin sont toujours un peu compliqués. Et quand on pense qu'on a même nous-mêmes, on a besoin de dictionnaires pour parler de temps en temps entre nous, parce que quand, ça devient de pire en pire au niveau des termes en neurologie, avec les abréviations, etc. Donc, et tous les jours, il y a des nouvelles abréviations. Alors on dit, attends, quand on est ensemble, on dit, attends, qu'est-ce que tu veux me dire là?
Oui, puis il y a des fois, c'est aussi pour se faire mousser un petit peu.
Pour faire mousser un peu, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a comme infarctus du myocarde, donc IDM, donc c'est toujours plus facile de dire IDM qu'infarctus du myocarde.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est petites choses comme ça, quand on... c'est pas pour faire la grosse tête, c'est simplement c'est pour fluidifier les conversations qu'on peut avoir entre nous, médecins, pour aller plus vite, c'est équivalent. Mais je comprends aussi que pour...
Ça doit être bizarre, tu sais, à la terrasse d'un café, t'écoutes deux médecins. D'ailleurs, on devrait faire un sketch là-dessus.
Je pense que ça
a peut-être déjà été fait. Ouais. Mais si ça n'a pas été fait, on se lance.
Il y avait même un patient qui m'avait dit un jour, il avait vu justement un dictionnaire des termes médicaux que j'avais dans mon cabinet, puis il était très, très, très sarcastique, ce monsieur. Était très, très sympa aussi. Et il me dit, oh là là, mais ça m'inquiète quand même. Si vous avez besoin de dictionnaire pour vous parler ensemble, il n'avait pas tort.
Le traducteur. Hein.
Traducteur. Et je suis quand même inquiet d'un seul coup.
Puis tu sais, maintenant avec les smartphones, il suffit, genre tu prends ton téléphone et puis tu récites même à l'oral le mot que tu veux traduire dans une autre langue, par exemple. Bon là, ce serait dans la même langue, mais juste que c'est tellement complexe.
En bon français, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça, voilà, exactement. Bon français, vulgariser, qu'est-ce que
voilà,
ça veut dire?
Exactement.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, moi, quand je vais au congrès Quantique Planète qu'organise Marion deux fois par an, je me rends compte que même les plus grands astrophysiciens du monde vulgarisent quand même, parce qu'elle les pousse. Elle les pousse vraiment, vraiment. à être clair.
À être clair, parce que si on parle médecine ou si on parle physique, etc., je veux dire, c'est très gentil, mais il faut faire ça au congrès de médecine ou au congrès de physique. Faut pas faire ça au congrès qui où tout le monde arrive, c'est une évidence. J'essaye toujours dans tous mes livres de faire des termes le plus simple possible, parce que ça me paraît, j'ai envie de vraiment que les choses soient simples, soient claires. Et quand c'est souvent quelque chose que je conseille, je dis quand c'est pas clair dans un livre, ça veut dire soit que l'auteur n'a pas compris, donc ça veut dire laisser tomber, soit c'est quelqu'un qui a compris et qui essaye de garder les informations, certaines informations. Donc là aussi, laisser tomber également. Quand c'est pas clair, il faut laisser tomber parce que c'est pas...
Quand c'est pas fluide, de toute façon, je crois qu'il faut laisser tomber dans la vie. En général, ça peut s'appliquer à toute situation. Oui, mais dans les rencontres, dans l'humain, en fait, aussi. Tu sais, quand on s'en parle, on s'en parle.
On s'en parle. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui ont le don de compliquer les choses et il y en a d'autres qui ont le don de simplifier. Donc quand on complique, faut laisser... Voilà. Les choses sont très simples. Pour moi, la base était toujours ça. C'est que pour moi, la vie est simple. Et donc, toutes les règles aussi sont simples. Et tous ceux qui essayent de me compliquer la vie, je prends de l'éloignement parce que c'est pas ma route. C'est simplement ça.
Bon, en tout cas, Luc, on t'adore. Vraiment, on est toujours super content de t'avoir. Alors, avant de se quitter, peut-être ton site internet. Donc, c'est www.luc-duobaudin.com. Donc le site, il y a un site aussi dédié à la méthode Aura.
Non, là maintenant je l'ai parce que c'est un nouveau site.
Ok. Donc le site Luc Baudin est toujours d'actualité.
Luc Baudin résume l'ensemble, dont le site Aura qui va se développer là parce que j'écris des livres, c'est vrai que j'ai pas quand même tout le temps de remplir toujours mon site. Ouais. Et puis donc c'est là sur le site, on parle d'Oponopono, d'Aura. Il y a 1400 articles.
Ah ouais.
Quand même, 1400 articles qui sont à disposition de tous sur la médecine, sur les énergies, etc., sur l'évolution aussi de la planète. Et puis, j'organise toujours mes stages. Et puis, le stage de Paris, d'avril est complet. Celui du mois de mai commence à être bien, bien complet. Donc, il reste encore quelques places, mais ça va venir. Et surtout, j'organise aussi un petit symposium le 26 avril, que je t'avais invité. Nathalie, si ça te fait plaisir, t'es toujours mon invité quand tu veux. Et sur le 26 avril, c'est un Narbonne, et il va y avoir sept conférenciers, donc le professeur Charbonnier qui va nous parler des étapes proches de la mort et de la vie après la vie. Il va y avoir le professeur Bobola qui va nous parler du cerveau quantique. Il va y avoir Tal Chaleur qui n'est plus à présenter avec
Tal Chaleur, cool. Voilà,
avec son épouse qui va nous faire qui va nous parler aussi du chamanisme. Après ça, il va y avoir les frères Pain qui sont vraiment deux jeunes, enfin pour moi, sont deux jeunes, je dis entre guillemets, mais qui ont vraiment une technique, ils abordent la santé avec intérêt. Il y a aussi Aloïs Audebrand, qui va nous parler de la physique du quantum touch aussi, qui est une technique de soins. Et puis
Aloïs, c'est drôle, je l'ai croisé il y a peut-être 4 ans dans un salon, ce jeune homme.
Très sympa, très sympa. Et puis j'aime bien aussi le quantum touch. J'avais invité d'autres personnes.
C'est vrai, personnes. On en parlera un jour de cette méthode que je ne connais pas assez pour.
Certains, il y avait M. Boutboul, mais il n'a pas pu venir parce qu'il part au Canada.
Serge.
Donc il y a plein de gens que j'aime bien. Puis j'aime bien réunir un petit peu des. Il n'y a pas de mauvaises techniques, il n'y a que des techniques différentes avec des gens qui sont merveilleux dans tous les domaines. Donc après ça, chacun de trouver sa voie. Et moi, je trouve ça génial.
Donc ça, c'est le 26 avril à Narbonne.
Voilà, à Narbonne. Et vous avez les informations sur mon site.
Écoute, super. Génial. Luc, si les auditeurs ont envie de t'écrire un petit mail pour te faire leur retour, sur quelle adresse peuvent-ils le faire? Sur le site internet.
Sur le site internet, il n'y a que moi, il y a contact, et puis c'est moi qui reçois les mails.
Bon, pas de soucis. Super. Merci infiniment, Luc, d'être présent aujourd'hui. Vraiment présent, en tout cas, avec nous. Et ça nous touche.
Oui, puis mon mental s'est complètement arrêté pendant toute l'émission.
Ah, mais oui, ça se voit. Et moi aussi, d'ailleurs.
Merci, Nathalie. Un grand, grand merci à toi. Et puis, grand merci à tous nos auditeurs, parce que c'est vraiment toujours un plaisir de ce partage.
À bientôt, Luc.
À bientôt.